Alors, dernièrement, j'ai eu l'occasion de rencontrer un frère qui dit avoir un appel d'évangéliste, mais qui est plutôt dans la mouvance charismatique. Et donc, on a discuté un petit peu des différences doctrinales que nous avions l'un et l'autre. C'était intéressant de lui poser des questions, voilà, d'échanger un peu, voir son point de vue, ce qu'il vit, etc. Et j'ai été surpris d'apprendre qu'il donnait du crédit à des hommes qui prétendent avoir un ministère de miracles, de guérisons, de prodiges, etc., d'onctions, mais qui s'avèrent pour moi clairement être des charlatans de la foi. Vraiment, c'est des faux prophètes. Pour moi, c'est une évidence. Et après ça, eh bien, je suis resté perplexe. Perplexe sur la séduction que peut opérer le diable sur des enfants de Dieu. J'en suis resté vraiment perplexe. Je crois qu'à terme, un enfant, un vrai enfant de Dieu, il finit par ouvrir les yeux. Il voit l'évidence, hein, je le crois. Il doit ouvrir les yeux, c'est pas possible autrement. On connaît cette parole. Les brebis suivent qui ? Le bon berger. Et il dit, parce qu'elles connaissent sa voix, elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers, nous dit Jésus. Et donc, je me dis, mais le diable a quand même un pouvoir limité sur les enfants de Dieu, je le crois, mais encore faut-il que l'enfant de Dieu ou la brebis écoute la voix du berger. Il faut écouter la voix du berger. Imaginez quelqu'un qui lit peu sa Bible, qui la sonde peu, qui l'étudie peu, qui, voilà, pas avec assez de diligence, hein, et finalement qui connaît assez peu la voix du bon berger. Or, bien sûr, on pourra toujours dire, mais il y a la voix du Saint-Esprit dans nos cœurs. C'est vrai, le Saint-Esprit est dans nos cœurs, hein, il parle à notre cœur, mais il faut avouer que parfois c'est quelque chose d'un peu subjectif. Hein. C'est pas toujours très clair. Même un chrétien consacré, bah, il se trompe des fois. Il prend une mauvaise décision, hein, il a cru que, et puis bah, il s'est trompé. On apprend de ses erreurs, etc. Donc, voilà, c'est pas fiable à 100%. Alors, bien sûr, Dieu veut qu'on développe une sensibilité au Saint-Esprit. C'est clair. Dieu veut qu'on apprenne, justement. Hein. Il y a des décisions, il faut les prendre vite. Eh ben, si on ne sait pas reconnaître la voix du Seigneur dans nos cœurs, on peut se tromper. Hein. C'est clair. Mais la voix de Dieu avant tout, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est la voix de Dieu. C'est sa voix. Elle se trouve premièrement dans les Saintes Écritures. Sa voix, c'est la parole de Dieu elle-même. Ça, c'est sûr. C'est écrit, c'est clair. Et c'est quelque chose vraiment de très, très important. Parce que le ressenti intérieur, c'est quelque chose de trompeur. Le sentiment, il ment. Hein? C'est un ressenti qui peut mentir. Et Jésus n'a de cesse de dire, si quelqu'un m'aime, qu'il garde ma parole. Et quand il dit ma parole, il parle de ma parole écrite. Si quelqu'un m'aime, qu'il garde ma parole. Dieu ne fait pas appel à nos sentiments ou à notre ressenti pour juger ce qui est vrai ou faux. Mais il dit, mais lisez les Écritures. Lisez les Écritures. Examinez les Écritures. Et c'est vraiment important de serrer la parole dans son cœur, de la lire, de la connaître. C'est essentiel pour ne pas être trompé par des voix qui sont mensongères. Et le titre de mon message ce matin, c'est « Avertissement en des temps troublés ». Dieu nous a tout dit d'avance et il nous avertit d'avance. Et j'aimerais qu'on prenne ensemble 2 Pierre chapitre 3, versets 1 à 18. On va lire tout le chapitre. 2 Pierre chapitre 3. Et on va lire donc à partir du verset 1. L'apôtre Pierre dit « Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie et marchant selon leur propre convoitise. Ils disent, où est la promesse de son avènement, de son retour? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que, par ces choses, le monde d'alors périt submergé par l'eau. Mais, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que, devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochables dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croyez dans la grâce et dans la connaissance, croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. On va s'incliner dans la prière. Seigneur éternel, merci parce que tu as révélé des choses à tes serviteurs d'autrefois. Seigneur, tu as donné des paroles qui nous étaient destinées, à nous qui sommes parvenus maintenant à la fin des temps. Et nous te remercions, Seigneur, de nous avoir tout dit d'avance. Père, aide-nous à recevoir ta parole, à comprendre. Seigneur, nous avons besoin de ton esprit pour nous nourrir, pour recevoir ce que tu veux nous dire, mais aussi pour illuminer notre cœur par les vérités que nous n'avons pas encore comprises. Seigneur, que tu bénisses tes Écritures, que tu bénisses ta parole selon ta promesse, Seigneur, et qu'elle sauve, qu'elle change, qu'elle transforme, qu'elle illumine le cœur. Nous te le demandons ensemble, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc l'apôtre Paul est ici à la conclusion de ces deux lettres, de ces deux épîtres. Et il dit verset 1, donc chapitre 3, verset 1, « Voici déjà, bien-aimé, la seconde lettre que je vous écris, dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. » Dans d'autres versions, il dit, il parle de réveiller notre pure intelligence. Réveiller, tenir en éveil, et l'apôtre nous parle pour nous, en fait. Il nous parle pour nous, chrétiens du 21e siècle. Quels sont ces avertissements qu'il nous a laissés? Si vous lisez toute la première épître de Pierre, vous voyez qu'il vous parle beaucoup de la souffrance, des épreuves. C'est vraiment le thème de toute la première épître. On y lit, par exemple, que Dieu permet l'épreuve afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange et l'honneur et la gloire lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Donc Dieu est en train de préparer une délivrance de nos épreuves, de nos souffrances, mais il faut qu'on garde l'espérance. Gardez l'espérance. C'est aussi dans sa première lettre que Pierre dit « Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. » Et donc, Pierre ne présente pas la souffrance comme étant quelque chose d'exceptionnel pour un enfant de Dieu, ou de rare, ou d'impossible. Non, ça fait partie de la vie chrétienne. Il dit plutôt, dans la même épître, « Armez-vous de la pensée de souffrir. » Quelque chose. Ou encore, « Que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, comme voleur, comme malfaiteur, ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. » Et vous savez, il y a un visage du christianisme véhiculé dans certains milieux chrétiens de ces derniers temps qui ne correspond pas du tout à l'Église primitive. Alors vraiment pas. C'est l'image d'une foi qui est dans les sommets de la spiritualité, soi-disant, et puis du succès, de la santé et de la richesse. Ça s'appelle l'évangile de la prospérité. Évangile de la prospérité. Selon certains orateurs, Dieu voudrait que tous les enfants de Dieu soient riches et en bonne santé. Et donc, si vous vivez des difficultés financières, ou si vous êtes éprouvé, si vous souffrez d'une manière ou d'une autre, ce n'est pas la volonté de Dieu. Il faut que ça change. L'apôtre Pierre continue ses avertissements dans cette deuxième lettre. Et j'aimerais qu'on prenne donc 2 Pierre, chapitre 2, et versets 1 à 3. 2 Pierre, chapitre 2, et versets 1 à 3. Il dit, « Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement, et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. » Il y a plusieurs choses à relever ici. Au verset 1, donc chapitre 2, verset 1, il dit « Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, il y aura de même parmi vous de faux docteurs. » Donc là, on parle de personnes qui ne viennent pas de l'extérieur. Elles sont à l'intérieur. Hein. On dit d'elles qu'elles sont parmi nous. Elles font partie des milieux chrétiens. Elles sont au milieu de toute la mouvance chrétienne. Mais c'est comme le Canada Dry. Vous vous souvenez hein, il faut avoir quelques années, je pense. Hein. On vieillit là, parce que il n'y a plus la pub. Donc c'était une pub de Canada Dry qui avait la couleur de l'alcool. Les bulles de l'alcool, etc. Mais ce n'était pas de l'alcool. Donc c'était une boisson sans alcool. Mais en fait, ces personnes-là, elles ont un arrière-plan chrétien. Elles ont un vocabulaire chrétien. Elles ont même un message chrétien. C'est fort. Elles ont un message chrétien. Peut-être même des bonnes manières chrétiennes. Mais elles ne sont pas chrétiennes. Elles renient le maître qui les a rachetées. Elles le renient. Et ce reniement est non directement par la parole, par exemple, Jésus-Christ. Non, c'est pas ça. Elle le renie par leurs œuvres, mais aussi par le message, la pensée qu'elle véhicule. Elle le renie. Elles ne sont pas chrétiennes. Il dit ensuite, plusieurs les suivront dans leur dérèglement. C'est triste. Il y a un pouvoir de séduction. Le diable est rusé, il séduit et il trompe au sein du christianisme, au sein des enfants de Dieu. Il dit ensuite, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Alors c'est certain, le témoignage chrétien, il ne reste pas indemne. Hein. Il y a quelque chose qui se passe. Hein. Quand on voit certaines grandes campagnes immenses de pseudo-guérison, je dis bien pseudo-guérison, et qui sont destinées en fait à engranger le maximum d'argent, parce que c'est une réalité, ben, le témoignage de Jésus-Christ, il est souillé, il est sali, forcément, hein, puisqu'on fait référence à Jésus-Christ. Et regardez la suite. Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses. Pierre dévoile ici la réalité. Il dit que c'est par cupidité. En fait, ce sont des loups qui veulent gagner de l'argent. C'est tout. Ils veulent engranger le maximum d'argent. Et l'accent est mis ouvertement sur cela. Bien sûr, il y a un principe biblique dans la Bible. Il est dit que ce que l'on sème pour le Seigneur, eh bien, on peut être assuré que Dieu ne nous oubliera pas. Il nous le rendra. Mais eux, ils se servent de cette vérité, et ce n'est pas d'une manière désintéressée, au contraire, c'est intéressé. C'est dans le but d'amasser pour eux-mêmes. Et vous savez, la petite pièce de la veuve, ils n'en veulent pas. Ils n'en veulent pas. Ils le disent ouvertement. Hein. Si vous ne donnez pas au moins, c'est même pas la peine. Hein. Le Seigneur, ils le disent ouvertement. Ils ne se cachent pas. Pourquoi ? Parce que sinon, ils n'arriveraient plus à maintenir leur train de vie. Parce qu'ils ont un train de vie, voilà, digne des plus riches. Pierre dit, ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses. Une autre traduction dit, ils feront trafic ou trafiqueront de vous. Ils trafiqueront de vous. Et on voit ici la puissance du malin. Et ce qui est frappant, c'est qu'il ne trompe pas le monde. Vous savez, même le monde, il ne s'y trompe pas. Les journalistes, ben, ils arrivent à pister et puis à dire, mais vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas là. Ils le voient, ils en parlent. Hein, on fait des émissions, on le dit. Mais c'est qui est trompé ? C'est les chrétiens. C'est les enfants de Dieu qui sont trompés. Des enfants de Dieu roulés dans la farine. Un chrétien m'a dit que ce genre de personne doit probablement être, vous savez, dans la parabole des talents, celui qui a reçu 5 talents. Oui. Parce que les talents ici, c'est de l'argent aussi. Hein. Et donc, comme il reçoit énormément, il est voilà, dans les millions, hein, eh bien, il a reçu 5 talents. Il s'en sert pour Dieu. Vous voyez un peu le pouvoir de séduction ? Le diable veut exploiter les enfants de Dieu avec des paroles qui sont trompeuses. Et c'est triste. Ça fait de la peine de voir des serviteurs de Dieu, des vrais enfants de Dieu, qui se mettent à imiter ce qu'ils font. C'est vraiment triste. Et alors, on voit les gens qui tombent en arrière et on souffle même dessus. Parce que ben, c'est l'esprit, hein, le feu de l'esprit qui est sur ces personnes. Ben, c'est triste. Dans les Écritures, je ne trouve pas Dieu qui bénit en faisant tomber les gens à la renverse. Vous ne trouvez pas ça ? Montrez-moi un passage où Dieu bénit en faisant tomber à la renverse. Ça n'existe pas. Il n'y en a pas. Au contraire, l'homme tombe à genoux et Dieu l'a béni. À genoux, prosterné devant le Seigneur et Dieu l'a béni. C'est ça la bénédiction de Dieu. Il y a un seul cas où il tombe à la renverse. Vous savez ce que c'est ? C'est quand Jésus est dans le jardin de Gethsémané et il dit « Ego eimi, je suis ». Et là, il tombe à la renverse. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Il est en train de repousser des ennemis qui veulent faire du mal aux disciples et leur dit « Laisse-les, laissez-les, laissez partir ceux-là ». C'est un jugement et ce n'est pas une bénédiction. On ne voit pas dans les Écritures un Saint-Esprit, et le Saint-Esprit est vraiment beaucoup mis en avant. Vraiment, on parle énormément du Saint-Esprit. Alors que le Saint-Esprit, c'est la personne la plus effacée de la Trinité. Et il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce que je vous ai annoncé. Et il parlera de qui ? De Jésus-Christ. Le Saint-Esprit pointe vers Jésus-Christ. Mais dans ce genre de rencontre, c'est le Saint-Esprit qui est glorifié et qui est mis en avant, en avant, en avant, en avant, en avant. C'est pas la pensée de Dieu. Et on ne voit pas dans les Écritures un Saint-Esprit, qui terrasserait d'une certaine manière les gens par l'électricité de Dieu. Parce que c'est ce que j'ai entendu. L'électricité de Dieu. Alors, manifestement, il se passe quelque chose. Vraiment. Il se passe vraiment quelque chose. Hein. On ne tombe pas comme ça sans une influence réelle. Il y a quelque chose qui se passe. Mais ce n'est pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Et il y a une séduction dangereuse derrière les faux prophètes. Pourquoi ? Parce qu'ils agissent au nom de Jésus. C'est au nom de Jésus qu'ils font tout ça. Et c'est très troublant pour un chrétien. On est dans un siècle de l'image, dans un siècle du visuel. Hein, vraiment, c'est la vidéo. Hein, c'est, voilà. Le média roi aujourd'hui, c'est YouTube. C'est YouTube. C'est le média roi. Ça supplante le journal télévisé. C'est incroyable la consommation de vidéos que les gens font. On a besoin du visuel. Il faut qu'on nous montre quelque chose. Alors forcément, quand on voit quelqu'un dans un fauteuil roulant qui se lève, qui marche, qui tombe à la renverse sous la puissance de Dieu, eh bien, on est frappé. On regarde. Hein. Et si on n'a pas une bonne connaissance des Écritures et suffisamment de recul et de discernement, ben, la séduction, elle fait son effet. C'est normal, c'est normal. Mais oui, Jésus ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, je le crois. Ben oui, ben Jésus est capable de guérir. Ben je le crois. Mais alors, il le fait, il l'a fait, je viens de le voir, il l'a fait. Jésus nous a prévenus. Matthieu 7, 21 à 23. Matthieu 7, 21 à 23, vous pouvez garder votre main dans Pierre. Et il dit, ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? Alors je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Et ce sont des hommes et des femmes qui disent « Seigneur, Seigneur ». C'est fort quand même. Hein. Dire « Seigneur », c'est très fort. Parce que vous savez, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ne connaissent pas Dieu qui disent « Seigneur ». C'est un mot, ils n'arrivent pas à le dire. Hein. Parce que c'est reconnaître finalement que Dieu est au-dessus. Hein. « Seigneur », c'est très fort. Et ils le disent. Le nom du Seigneur est dans leur bouche. Et il y a du fruit en apparence. Il y a quoi ? Il y a des prophéties, il y a des délivrances, il y a des miracles, il y a des guérisons. Et pourtant, Jésus dit, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Et on peut croire qu'ils se mentent même à eux-mêmes. Ils le croient. Ils croient que c'est la puissance de Dieu. Ils le croient. Ils se mentent à eux-mêmes. Et je dis que c'est en apparence du fruit, parce que quand vous regardez, vous étudiez un peu la chose, vous voyez qu'après enquête de non-chrétiens et de chrétiens, après enquête, après étude au cas par cas, on s'aperçoit dans ces méga réunions de guérison, de pseudo-guérison, en fait, il y a 90% des gens qui n'ont... C'est faux. Ils ne vivent pas une réelle délivrance. Il n'y a aucune guérison. Simplement, il y a une suggestion très forte de délivrance. C'est vrai, une forte suggestion qui fait effet le temps où les émotions sont voilà, dans les cimes, hein, forcément. Il y a toute une atmosphère, il y a tout un... Voilà, ça monte, il y a une pression qui monte, il y a une persuasion. Et puis après, ça retombe. Alors attention, je ne veux pas dire que Dieu ne guérit pas. Dieu guérit, c'est clair, je le crois, Dieu guérit. Il fait des guérisons, il le fait encore aujourd'hui, j'en suis convaincu. Il le fait ici ou là, en réponse à la prière. Et je suis convaincu qu'il le fait aussi dans des rencontres des chrétiens, des enfants de Dieu qui prient, qui demandent, et Dieu le fait. Je le crois, il le fait. Mais c'est important d'avoir une bonne théologie. Dire que Dieu nous veut riches et en bonne santé... C'est faux. C'est complètement faux. C'est un mensonge. C'est une erreur qui se démontre d'abord par le corps de Jésus-Christ. Toute dénomination confondue. Regardez le corps de Jésus-Christ. Ben, il vit des maladies. Hein. Il vit des choses difficiles. Il vit des souffrances. Il vit des épreuves. Tous. Même les prédicateurs eux-mêmes. Les prédicateurs vivent aussi des choses difficiles. Ils ne le disent pas toujours. Ils ne crient pas sur les toits. Mais c'est une réalité. Moi, je le sais, on me l'a dit. Ils souffrent d'un problème et ils ne guérissent pas. C'est une réalité. Et c'est une erreur grossière pour l'enfant de Dieu quand il lit « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. » Donc, dire « Non, je serai toujours riche et ça va aller, hein. Non. Maintenant, qui séduisent, premièrement, ces faux docteurs ? 2 Pierre 2, verset 14. 2 Pierre 2, verset 14, eh bien, vous y lisez que ce sont les âmes mal affermies. C'est elles qui sont séduites. Les âmes mal affermies, c'est-à-dire plutôt des jeunes chrétiens ou ceux qui ont une mauvaise connaissance des Écritures ou qui ne sont pas enracinés dans la parole de Dieu. Et le Seigneur veut nous tenir en éveil. C'est pour ça qu'il a inspiré Pierre à nous parler de ces choses, alors que ça n'avait pas lieu à son époque. Ce n'était pas une réalité pour ce qu'il vivait, l'apôtre Pierre. Mais il était en train de nous parler pour nous, au futur, en disant, mais un jour, voilà ce qui va se passer. Et aujourd'hui, eh ben, c'est une réalité. On avance un petit peu. Regardez un autre avertissement qu'il nous donne. 2 Pierre, chapitre 3, et versets 3 et 4. Il dit, sachez avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie et marchant selon leur propre convoitise. Ils disent, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Et c'est une deuxième chose à laquelle on doit faire face dans ces derniers temps. C'est, il y a une part de mensonge, de séduction, et puis il y a une autre part, c'est la moquerie et la raillerie. Les railleries. On en parlait un tout petit peu tout à l'heure, hein, et c'est certain que dire « Jésus va revenir, je l'attends », eh bien, ça c'est quelque chose qui suscite des réactions, hein, c'est sûr, pour tous ceux qui n'ont pas la foi, et une majorité de l'humanité. Attends, t'attends que Jésus revienne? Ah ouais? Et on se moque. Au mieux, c'est un silence poli, on dit rien. Et souvent, il y a un petit sourire au coin de la bouche, et puis où on se moque, et on nous tire dessus. Ou les sarcasmes. Mais la vie chrétienne, c'est une vie de foi qui sort de sa zone de confort et qui témoigne de ce qu'elle croit. On sort et on... Allez, j'y vais. Je le dis. Qu'importe ce qu'ils penseront, je le dis. J'en témoigne. Pourquoi? Parce que Jésus l'a dit. Ce n'est pas les apôtres qui l'ont dit, même s'ils l'ont repris après. Mais c'est Jésus qui l'a dit. Il a dit lui-même, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez là où je suis. C'est Jésus qui le dit. C'est une promesse pour nous aujourd'hui. Et plus que jamais, elle est valable. Plus que jamais, on peut l'attendre. Elle ne tardera pas. Et si le monde ne croit pas, ben qu'importe. Nous le croyons et nous le disons. 2 Pierre, chapitre 3, versets 5 à 7. Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Pierre nous dit que les moqueurs, ceux qui rejettent finalement la pensée de Dieu, veulent ignorer que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre formée de l'eau, et au moyen de l'eau. Ils veulent ignorer que tout vient de la parole créatrice de Dieu. Ils veulent l'ignorer. En fait, il y a un choix délibéré. Ils ne veulent pas le croire. Ils refusent d'y croire. Et Pierre dit une vérité. La terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. On sait que la terre est recouverte de 70% d'eau. On sait que nos corps sont formés de 65% d'eau. En fait, le rapport est toujours le même. Deux tiers, un tiers. Deux tiers d'eau et un tiers vient de matière sèche. Et pour tous les scientifiques, il est clair que l'eau veut dire vie. Et vie veut dire ben, la présence d'eau. Et c'est pour ça qu'on cherche de l'eau ailleurs. Sur Mars, on regarde, parce qu'on se dit, si on trouve de l'eau, on trouve la vie. On cherche la vie. Et Pierre, lui, ben, qu'est-ce qu'il croit? Il croit simplement à la Genèse. Il croit au premier verset de la Bible. Quand Dieu dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. et la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, voilà, il y avait de l'eau au commencement. L'eau, c'est la première composante de toute vie. Et même les scientifiques qui raillent la parole de Dieu, ils le croient. Ils le croient. Entre parenthèses, j'ai trouvé un site qui regroupe, c'est un manifeste de plus de 700 scientifiques dans tous les domaines, géologie, cosmologie, biologie, etc., du monde entier, et en fait des scientifiques continuent à se rajouter, qui ont tous signé pour dire qu'ils contestent la théorie de l'évolution. 700 scientifiques. Donc voilà, faites une recherche, vous trouverez. C'est quand même quelque chose qui mérite d'être souligné. Mais ça n'empêche pas qu'il y ait des railleurs. Forcément, 700 sur la communauté scientifique, ça semble être une minorité. Mais l'apôtre Pierre ajoute « Par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. » Et c'est une autre chose que nous croyons, que nous affirmons, c'est qu'il y a un jugement qui vient. Dieu ne va pas laisser impuni le mal. Il ne va pas laisser impuni les vols, les adultères, les mensonges, la méchanceté. Dieu ne laissera pas impuni tout cela. Un jour, comme Dieu a jugé par l'eau avec le déluge, Dieu va juger par un déluge de feu, par le feu. Alors certains se disent, oh là là, un scénario apocalyptique. Mais vous savez, en 2004, quand il y a eu le tsunami, on ne s'y attendait pas. Hein. C'est un vrai scénario apocalyptique. Hein. 250 000 personnes tuées en l'espace de quelques minutes. C'était apocalyptique. Eh bien, Dieu va permettre quelque chose. On ne sait pas quoi. Est-ce que ce sera une pluie, une météorite? Est-ce que ce sera une fracture de la couche terrestre, des éruptions volcaniques? Mais Dieu va faire que tout sera consumé par le feu. Et il nous prévient, il va le faire. Alors certains disent, mais pourquoi il n'y a rien qui se passe aujourd'hui? Pourquoi on ne voit pas quelque chose? Et regardez versets 8 et 9. Chapitre 3, versets 8 et 9. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Et Dieu nous dit qu'il est en dehors du temps. Il n'est pas dans notre système, dans notre temps, il est en dehors. Et pour nous, c'est sûr, ça nous semble une éternité, 2000 ans. 2000 ans, mais pour lui, c'est rien du tout. Rien du tout. Et Dieu savait qu'on dirait ça, que c'est quand même long. Alors il nous l'a écrit à l'avance pour dire, je sais ce que vous allez dire, mais moi je vous dis ça. Pourquoi il n'est pas pressé? Parce qu'il use de patience envers un monde impie. Il use de patience envers tous les pécheurs. Il n'est pas pressé parce qu'il veut qu'ils arrivent à la repentance. Et la repentance, c'est quelque chose qui change une vie. Ça change une vie. Est-ce que vous avez déjà vécu une vraie repentance? Une vraie repentance. Une vraie repentance envers Dieu. En 2010, Sandra Bullock, je ne sais pas si vous connaissez, une actrice célèbre, hein, Sandra Bullock a remporté le prix de l'Académie de la meilleure actrice pour son interprétation. Alors, le nom, je n'ai pas demandé à mon épouse, mais Lee-Ann Thuori, je ne sais pas trop le prononcer, pour cette personne. Donc, elle a interprété cette personne dans le film The Blind Side. Et le titre français, c'est L'éveil d'un champion. L'éveil d'un champion. Je ne sais pas si vous avez vu ce film, non? Alors, c'est un très beau film qui raconte l'histoire vraie d'une famille chrétienne qui a pris sous son aile un sans-abri qu'elle a trouvé dans la rue et qui lui a permis de s'élever et d'atteindre ce que Dieu voulait faire de cette personne. Ce jeune homme s'appelait Michael O'Hare, hein, c'est très récent, et il a non seulement échappé au désespoir d'une éducation dysfonctionnelle, mais il a été propulsé jusqu'à devenir un footballeur professionnel de la Ligue nationale de football américain de l'équipe de Baltimore Ravens en 2009. C'était hier. Il est devenu footballeur professionnel. Sa mère adoptive, elle s'est souvenue comment ça s'est passé, ces événements, et comment ils l'ont accueilli sous leur toit. Et elle dit, ça a commencé avec deux mots. Simplement deux mots, ça a complètement changé leur vie. Quand ils ont vu Michael marcher le long de la route, lors d'une froide matinée du mois de novembre, et c'est aux États-Unis, je peux vous dire c'est froid, en short et en t-shirt, elle a prononcé deux mots qui ont changé leur vie, à elle et à son mari, à tout le monde et à lui. Elle a dit simplement « Fais demi-tour. Fais demi-tour. » Ils ont fait demi-tour, ils ont accueilli ce grand jeune homme, hein, une armoire à glace, hein, mais qui, je ne sais pas quel âge il avait, un grand ado. Hein. Ils l'ont accueilli dans la voiture chauffée et finalement ils l'ont adopté. C'est devenu leur enfant. Et vous savez, ces deux mêmes mots, ils peuvent changer votre vie à vous aussi. Demi-tour. Simplement prendre une décision, je fais demi-tour, je me retourne. Je prends une nouvelle direction, une autre direction. Le monde a besoin de repentance envers Dieu, c'est-à-dire de faire un demi-tour. Pourquoi demi-tour ? D'abord à cause de l'incrédulité, parce que nous ne croyons pas en lui. Les hommes ne croient pas en Jésus-Christ. Et la preuve la plus flagrante, c'est qu'ils ne se soucient pas de lui. Ils vivent leur vie, même s'ils disent « moi je crois en Jésus-Christ ». Mais dans la réalité de leur vie de tous les jours, on voit bien, ils ne se soucient pas de lui. On ne pense pas à lui, on ne le cherche pas, on ne lui parle pas comme on devrait lui parler, on ne lit pas sa parole, on vit tout simplement pour nous-mêmes. Pourquoi faire demi-tour ? À cause de l'indifférence. Et tant qu'on n'est pas confronté à la brièveté de la vie, c'est-à-dire à la mort, tant qu'on n'est pas confronté à la mort, ben on vit dans l'indifférence, dans l'insouciance. Et on ne se prépare pas. On vieillit, le temps passe et on ne se prépare pas. Pourquoi faire demi-tour ? Parce que Dieu aime l'homme. Mais Dieu déteste son péché. Dieu déteste le péché. Il est le péché. Et on est tous des pécheurs. Et on a tous besoin de se repentir. De faire demi-tour pour se tourner vers Jésus-Christ. Et je vais vous dire quelque chose maintenant. Si Dieu n'éclaire pas votre cœur, vous ne le comprendrez pas. Il faut que la grâce de Dieu éclaire votre cœur et vous illumine. C'est le seul moyen. Sinon, vous ne comprendrez pas. L'apôtre Pierre a dit, Christ a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous mener à Dieu. Christ a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Jésus est mort pour nous, lui juste pour nous, des injustes. Et donc Dieu a traité son Fils comme un coupable pour que vous puissiez être innocent. Vous soyez innocenté, pardonné, purifié. Lui a été traité comme un coupable, alors que lui était juste. Lui était véritablement innocent. Ça, c'était le seul moyen pour que Dieu vous donne le pardon de vos péchés. Seul moyen. Lui juste, mort pour nous coupables, afin de nous amener à Dieu. Que nous puissions le comprendre et croire, l'accepter. Je le crois, Seigneur Jésus. Oui, je comprends et je le crois. Seigneur Jésus, pardonne-moi. Je me repens et je t'accepte comme mon sauveur. C'est ça qui change la vie, qui bouleverse la vie. C'est un demi-tour. Et vous savez, en des temps troublés, aujourd'hui, on voit le monde et un virage. C'est une réalité, il y a un virage dans notre monde. Beaucoup de choses ne semblent pas pouvoir continuer ainsi. Il va se passer quelque chose. On perçoit tous qu'il y a des choses graves qui vont finir par arriver dans ce monde. Et Dieu nous avertit par sa parole qu'on puisse être attentif. Et j'aimerais terminer avec 5 exhortations du Seigneur pour nous, ses enfants. 5 exhortations. Verset 11, chapitre 3. 2 Pierre 3, verset 11. Il dit, « Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. » D'abord, Dieu dit, « Attendez. » Est-ce que nous attendons Jésus? Est-ce que vous attendez Jésus? Vraiment? Dieu veut qu'on garde cette pensée présente dans notre esprit. Peut-être que nos projets vont s'arrêter d'une manière soudaine. On est en train de prévoir des choses et oh, ça va s'arrêter. Peut-être qu'on n'aura pas le temps de finir ce qu'on a prévu. Peut-être qu'on n'emménagera jamais dans ce local. On ne sait pas. Peut-être que notre vie va s'arrêter plutôt que ce qu'on a prévu. Ça sera soudain. Et Dieu ne veut pas qu'on soit surpris. Il nous dit, attendez, soyez dans l'attente. Et c'est important parce que si nous gardons cette espérance dans notre cœur, Jésus revient bientôt. Alors, dans ce cas, on va veiller sur sa conduite afin que notre piété, notre conduite soit sainte. Ça, c'est important. Attendez. Mais il rajoute un autre mot qui complète. Il nous dit « hâtez son retour ». Hâtez. Et le verbe signifie « désirer sérieusement, sincèrement ». Et au travers de ce verbe, on voit de nouveau le fait de garder l'espérance du ciel. On garde cette espérance dans notre cœur. Bien sûr, on a les pieds sur terre. Bien sûr, on fait des projets. Voilà, on ne devient pas fou. On garde les pieds sur terre. Mais une vie chrétienne en bonne santé, elle a hâte de voir Jésus qui revient. Elle a envie de voir Jésus qui revient. C'est la pensée de ces paroles de la fin de l'Apocalypse. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise « Viens !» Et que celui qui a soif « Vienne !» Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Est-ce que nous sommes dans cette épouse qui dit « Viens !» Est-ce qu'on dit « Viens, Seigneur Jésus !»« Viens !» Je t'attends. Ça dénote notre amour pour lui, notre attachement à sa personne. Dieu nous dit ensuite « Appliquez-vous !» Regardez verset 13. Il dit, mais nous attendons selon sa promesse, versets 13 et 14, mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochable dans la paix. Et on a l'espérance que toutes les injustices de ce monde finiront bientôt. Mais en attendant, il faut qu'on s'applique. Et à quoi? À être trouvé par lui sans tache et irréprochable dans la paix. Et c'est intéressant parce que, en fait, ici, il n'est pas question de faire quelque chose. Il n'est pas question de s'appliquer à travailler, même si Dieu, bien sûr, veut qu'on travaille et veut qu'on œuvre pour lui. Mais là, il n'est pas question de ça. Il faut qu'on s'applique à être trouvé. Et là, il y a une notion du repos. C'est quoi, en fait? On pourrait traduire « demeurer en lui ». C'est ça, « demeurer en lui ». « Demeurer dans mon amour ». « Demeurer dans la lumière ». Vos péchés confessés. « Demeurer dans ma vie, en fait. Hein, ma vie en moi. « Demeurer dans l'obéissance ». Et alors, quand j'arrive, je vous trouverai sans tache, irréprochable. C'est ça. Si vous vous dites, aujourd'hui j'ai bien du mal à demeurer en lui tout le temps, je tombe, tous les mètres je tombe par terre. Pierre ajoute, verset 15, il dit, croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon sa sagesse qui lui a été donnée. Et si le Seigneur tarde un peu, tant mieux pour nous. On a le temps de mûrir, on a le temps de se rapprocher de lui. On attend d'abandonner les péchés, peut-être auxquels on est encore en train de lutter, contre lesquels on est en train de lutter. Et faire ce pas d'obéissance, peut-être que Dieu nous demande aujourd'hui de faire. Ensuite, quatrièmement, tenez-vous sur vos gardes, verset 17. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Et on est averti, tout n'est pas acquis dans la vie chrétienne. Et on peut glisser, être entraîné par les impies et déchoir. C'est notamment possible par la séduction du monde. Il y a un exemple, notamment avec ce verset, vous savez, « Démas m'a abandonné pour l'amour du siècle présent. » Voilà. Bon, il est tombé. Et déchoir, c'est un mot très fort. Très fort. On est à une position élevée, une position que le Seigneur nous donne, cette position, mais c'est la position qu'on a en lui, en fait. Hein. En lui, mais on est déjà dans le ciel, hein. On est avec lui, c'est une vie de résurrection, c'est une vie de communion, une vie de grâce, une vie d'approbation. Et nous tombons, nous descendons. Tenez-vous sur vos gardes. Résistez, soyez fermes, nous dit la parole de Dieu. Et enfin, Pierre nous dit, croissez. Regardez verset 18. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Et c'est un aspect important pour ne pas déchoir et ne pas se relâcher. Est-ce que nous continuons à croître, à mûrir, à apprendre, à renoncer, à obéir? Est-ce que nous continuons? Où en est notre vie? Est-ce qu'elle progresse encore? Ou bien on vit dans une petite vie tranquille, pas de sacrifice, pas de don de soi, pas de renoncement particulier, et puis ben, pas de progrès. Et je lis ensemble don de soi et progrès parce que c'est l'exemple de notre Seigneur. Jésus n'a pas cessé de se donner pour les autres. Toute sa vie, tout son ministère. Qu'en est-il de nous? Lui, il a offert sa vie pour les autres. Il ne vivait pas pour lui-même. Et il nous dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et notre vie, elle doit être offerte. Elle doit se donner pour les autres. Sinon, bah, la croissance s'arrête. Et puis, il n'y a pas de fruits. Il n'y a rien. On ne grandit pas en lisant des livres, en restant dans son bureau et à lire des livres. On ne grandit pas non plus en regardant la télé tous les soirs. On ne grandit pas. Quand on grandit, c'est parce qu'on met en pratique la parole de Dieu. On est engagé, actif, on met en pratique la parole de Dieu. On obéit et on se donne pour les autres. Alors là, on croit dans le Seigneur. Voilà des avertissements en des temps troublés. Alors que le Seigneur nous trouve actifs et fidèles. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Hein? Qu'on puisse dire Amen. Viens, Seigneur.